Je vous plante le décor. Nous sommes dans un studio d'enregistrement. Il y a un cactus, un sombrero ou encore une fusée issue des aventures de Tintin accrochée au mur. C'est la scénographie du concert Dutron et Dutron, en tournée en ce moment. Comprenez, Dutron père et fils. Le père entre sur scène avec ses Ray-Ban aviateurs qui ne quitteront pas son nez et déclare « Ils m'ont mis un tabouret pour chanter. C'est pas encore un déambulateur. » Et dire que Steven Spielberg avait pensé à lui pour jouer Indiana Jones. Sauf que Dutron ne parle pas anglais. Ce matin, Pop & Co est donc Jacques Dutron jusqu'à midi. Un garçon qui a fait carrière comme on fait l'école buissonnière. Musicien, compositeur, il est arrivé sur les décombres des yéyés et s'est mis à chanter complètement par hasard. C'était en 1966. À partir de là, Dutron va incarner une trilogie bien française. La désinvolture, l'insolence et l'ironie. Il fut en costard avec une gueule de beau gosse, une gouaille de petit marlou et une voix de sourire en coin. Il a ensuite adopté perfecto, lunettes noires et cigares. Un dernier accessoire qui lui permet d'éviter la conversation. Aujourd'hui, il passe son temps sous le soleil de Corse et au journaliste Philippe Barbeau, il a déclaré « J'adore tripoter la terre. C'est plus concret que de chanter des trucs dans des machines infernales. » Et puis la terre, ça réagit plus vite qu'un comité d'écoute d'une maison de disques. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Pour chaque épisode de Pop & Co, Ilinka Negulescu trouve des archives télé ou radio. Et là, à l'écoute, je peux vous dire que la question la plus souvent posée à Dutron, et depuis un bail, 1966, cette question donc, c'est celle-ci.
Jacques Dutron, qui êtes-vous ?
Bon, il y a un truc qui ne marche pas là. Dans le micro aussi.
Non, si, je crois que ça marche.
Ça marche en régie ?
Je crois que ça marche, oui.
Si, si, ça marche. Ça commence autour d'un square dans le 9e arrondissement de Paris, le square de la Trinité. D'ailleurs, on appelle les gamins qui se réunissent là la bande de la Trinité. Il y a Jacques Dutron, donc, qui fait de la musique avec des copains dans une cave.
Je suis arrivé avec ma guitare. Il l'a accordé, il m'a appris les trois premiers accords du blues et on a commencé à jouer.
Voici Adi Calafat. Il est aujourd'hui bassiste des Rodeo Drive. Adi Calafat fut musicien de Dutron dès le début et jusqu'au milieu des années 70. Adi et Jacques croisent une fille qui joue de la guitare, elle aussi. Elle s'appelle Françoise Hardy et ils feront sa connaissance plus tard. Eddy Mitchell est coursier au Crédit Lyonnais et qui d'autre dans cette bande de la Trinité.
À la sortie de l'école rue Blanche, il y avait un garçon qui était en face du trottoir, très souvent. Et au bout de quelques temps, je traverse la rue et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu surveilles, tu regardes les garçons sortir de l'école ?» Mais il me dit « J'ai pas d'amis. » Je prends en compte à 9 ans. Hein. « J'ai pas d'amis, j'aimerais bien me faire des copains. Ben, » Je lui dis « Moi, si tu veux, on devient copains. » Et le temps passe, on arrive à l'âge de 15 ans. Et ce garçon commençait à chanter. Et il me dit, mais tu joues quelque part ? Je dis, oui, je joue avec Jacques, là, que tu as dû rencontrer au Square de la Trinité. Ah mais oui, je vois un mec qui passe tout le temps avec une guitare, là. Je me demandais toujours où il allait. Ben, je lui dis, viens. Et on accompagne qui ? Jean-Philippe Smet. Johnny Hallyday, c'est un truc de malade.
Une partie des futures grandes vedettes françaises des années 60 a donc vécu dans le même quartier de Paris ou quasi. L'industrie musicale est toute jeune, en pleine expansion, donc à la recherche de nouveaux talents. Donc tout est possible. Celui qui va changer la vie des gamins de la Trinité s'appelle Jacques Wolfson. Il est producteur, éditeur, directeur artistique du label Vogue. Wolfson est celui qui découvre le futur Johnny Hallyday et aussi Françoise Hardy. Dans le numéro 14 du magazine Schnock, Laurent Chalumeau rapporte que Wolfson a signé Johnny, je cite, « pour emmerder les jazzeux intégristes ». Et quand Wolfson lance la carrière de Dutron, c'est pour emmerder quelqu'un aussi. Mais qui ? Une nouvelle vedette qui s'appelle Antoine et qui fait un tube en 1966.
Oh yeah.
Les élucubrations, c'est le titre.
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
Et Jacques Wolfson a les boules. Antoine est lancé par Christian Fechner, autre directeur artistique du label Vogue, que Wolfson déteste.
Oh yeah.
Wolfson va d'abord chercher un parolier. Ce sera Jacques Lanzmann, frère cadet de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah. Jacques Lanzmann est écrivain, voyageur et rédacteur en chef du magazine Lui. Il soumet un premier texte à Wolfson qui commence par ces mots. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Wolfson file le texte à son assistant, qui est compositeur et guitariste. Il s'appelle Jacques Dutronc. Et Adi Calafat vous raconte la suite.
Et il nous dit, Jacques, tu mets une musique là-dessus. Et Jacques met ça dans un tiroir, et quelques mois après, Wolfson le rend fou furieux dans le bureau, en nous disant, mais qu'est-ce que vous avez foutu avec les textes de Lanzmann? Jacques, il dit, bah, je sais pas, ils sont là, dans le bureau. Écoute, il lui dit, tu fais la musique des mois et moi, ce texte-là. Tu fais la musique et Adi va chanter. 10 jours après, on se retrouve dans le studio, et j'enregistre, et moi, je prends la première version.
Donc, avec vous au chant?
Avec moi au chant. Et Wolfson dit, écoute, on va faire un autre essai avec Jacques, parce que Jacques voulait pas chanter au départ. Jacques dit, bon, comme Jacques avait fait la musique, il l'a mieux chanté que moi. Ça, c'est indéniable. Et c'est sorti en plein été, à Europe. Ils ont programmé la chanson comme des malades. Et ça démarre, quoi.
Dès l'été 1966, Dutronc n'est pas que sur Europe 1, il est partout. Donc à la télé aussi. Le 13 septembre, il est l'invité de l'émission « Vient de paraître », présentée par Cora Vauquer.
Bonjour. « Vient de paraître » ne sera pas aujourd'hui tout à fait « Vient de paraître ». Ça sera déjà paru. Parce qu'ensemble, je pense que vous avez passé de bonnes vacances et nous avons pensé vous les faire prolonger un petit peu. Et vous voyez, Jacques Dutronc est là.
Eh oui.
Vous faites figure de vacances pour moi.
Et si vous pensez de moi, franchement?
Eh bien, moi
oui.
Vous voyez, déjà, il y a un petit début, je vous connais.
Oui, c'est bien, c'est bien.
Eh bien, je vous trouve maxi chinois dans vos questions.
Parfait, parfait.
Ce qui veut dire que je vous aime bien, oui.
D'accord, c'est très bien, vous avez du goût.
J'espère que vous aussi.
Vous allez voir.
900 millions de crèvent la faim. Et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien. Et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien. J'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
Au sujet de cette chanson, Dutronc dira: c'est aussi fort que Tout va très bien, Madame la Marquise, qui est la meilleure chanson selon moi. Dans les deux cas, c'est la même démarche, à savoir, face à une situation désespérée, être dans le déni. On est en 1966 et moi, impose un ton radicalement nouveau tout de suite. Ça tranche avec ce qui existait jusqu'à maintenant. Et ce qui existait, ça s'appelait les yéyés, fascinés par les States. En novembre 66, Dutronc s'amuse d'ailleurs à chanter un tube yéyé, interprété par Johnny la même année.
Le black is black, et la portion de juice, and I'm in black, I'm the more one, it's love, yeah. What can you do? Et la portion de juice, I could choose.
Dutronc n'a jamais parlé anglais. Au magazine Schnock, il déclare « L'Amérique ne m'a jamais fait fantasmer. C'était aussi noche et pas ailleurs pour moi. J'étais plus ou moins lucide. Ce que te vend le rêve américain, c'est on arrive et on est riche. Mais si t'es pauvre, t'es vraiment pauvre là-bas, mon pote. Si tu te lèves pas tous les matins en te disant « Je vais être le meilleur aujourd'hui », on te parle plus. »
Enfin, je connais pas, moi. J'y suis allé deux fois, c'est tout. Ça suffit pas, il paraît.
C'est-à-dire que les yéyés étaient très inspirés déjà du rock américain.
Frédéric Quinonero est au micro de Pop & Co. Frédéric Quinonero est auteur de la biographie Dutronc l'Insolent, parue aux éditions de l'Archipel.
C'est-à-dire que les yéyés étaient très inspirés déjà du rock américain et chantaient des adaptations de succès américains qu'ils traduisaient ou qu'ils faisaient traduire en français. En 1966, l'influence ne vient plus d'Amérique, en fait. C'est l'époque du Swinging London. L'influence, elle vient de groupes anglais, en particulier, évidemment, les deux groupes qui vont devenir mythiques, les Beatles et les Rolling Stones, mais d'autres aussi, comme les Kinks. Donc, on était dans ce contexte-là, quand Jacques Dutronc est arrivé. Et ensuite, il avait un côté complètement décalé. Les yéyés avaient cette influence de l'Amérique, de James Dean, de Marlon Brando. Donc, il y avait à la fois une musique et à la fois une tenue vestimentaire. Blouson de cuir, jeans, bottes. Et Jacques Dutronc est arrivé avec un look complètement à l'encontre de ça, un look de dandy, costume, cravate, la mèche parfaite, etc. Et il disait aussi une chose, il a dit c'était parce que tout le monde s'habillait avec des blousons de cuir ou avec des treillis parce qu'on était contre la guerre du Vietnam que je me suis habillé en costume, en fait, par provocation, pour faire chier tout le monde, comme il disait, voilà.
Frédéric Quinonero vous a cité les Kinks, une bande de têtes de mule, autant qu'un groupe anglais génial. Et les Kinks, c'est notamment ce tube. You really got me. Avec une batterie qui a l'air de dire « Prends ça dans ta face ». Les Kinks inventent un son distordu, avec une guitare décorchée, un son de malpropre. On appellera ça le rock garage. Adi Calafate, bassiste.
On écoute ça, on tombe par terre, on dit la vache, le son qu'ils ont. On aime bien avoir ce son quand même, c'est génial. Et on se met à jouer. Et qu'est-ce qui sort? On n'a pas essayé d'imiter les Kings ou les Rolling Stones, mais on avait la patate, on avait une énergie hallucinante. Ce groupe incroyable, Michel Pellet à la batterie, sans une grande technique, mais alors un tempo d'enfer, ça fait cette énergie monstrueuse, quoi.
A été écrite la chanson Les Cactus.
D'abord, c'est Jacques qui donne l'idée à Lanzmann d'écrire sur les cactus. Pourquoi les cactus? Parce que à l'époque, Jacques, les boutons sur la figure, il appelait ça les cactus. Je demande pourquoi. Bon, c'est comme ça.
L'acné, quoi.
L'acné, oui, bien sûr, on est très jeune. Et alors, Jacques dit à Lanzmann, est-ce que tu peux pas m'écrire un truc sur les cactus? Lanzmann se met au boulot. Et Wolfson donne le texte à Jacques en lui disant « Je veux une musique pour demain, parce que demain, j'ai convoqué les musiciens, il nous manque un titre, il faut enregistrer cette chanson. » On rentre, il est 20h, et dans sa chambre, Jacques me dit « Moi, je ne sais pas quoi faire sur ce texte. » Ben, je lui dis « Écoute, on ne va pas s'emmerder, on va faire trois accords, les accords du blues. Prends ta guitare, j'en prends une, et puis on y va, quoi, on essaye. » Et on fait « Le monde entier est un cas. » Et Jacques me suit, etc. Là, 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 ça se fait comme ça. Et le lendemain, on enregistre. Et ce qui est incroyable, c'est que les cactus sortent, et il n'en vend pas des masses. Il me dit, tu vois, avec ton idée, on a une mauvaise idée, c'est sur le faire ça sur le blues, machin. Mais je dis, mais fallait enregistrer tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse?
Et à l'époque, le Premier ministre s'appelle Georges Pompidou. Le 20 avril 1967, le journal de 20h de l'ORTF diffuse son intervention devant l'Assemblée nationale que Pompidou conclut comme suit.
Croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus.
Si c'est pas la preuve que dès 67, un an tout pile après ses débuts, Dutronc est déjà une institution, après le discours de Pompidou, Adi Calafat raconte la suite.
Et le lendemain matin, pfiou, les ventes s'envolent. Ben je lui dis, alors tu vois, ça fonctionne. Ouais, mais c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Georges Pompidou.
Rebecca Manzoni.
Ce matin et jusqu'à midi, Pop & Co et Jacques Dutronc.
Ça tourne là ? Je recommence.
Adi Calafat, bassiste et ami de Jacques Dutronc.
Jacques n'était pas du tout impliqué politiquement, mais pas du tout. Ça, c'était pas du tout sa tasse de thé. La force des textes de Lanzmann coïncidait d'une manière presque miraculeuse avec le cynisme de Jacques. Il s'est vu dans les textes de Lanzmann. C'est-à-dire que il était content de développer et de balancer des choses qui lui, Jacques, en interview, n'aurait jamais osé le faire. À travers la chanson, c'était facile de balancer des choses. D'ailleurs, de par les textes de Lanzmann, Jacques a été reconnu comme relatant des choses sur la société, sur le comportement des Français. Rien qu'en 1966, Dutronc compose et Lanzmann écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes. Et parmi toutes les chansons publiées cette année-là, la plume de Lanzmann, régulièrement aidée par sa compagne Anne Segalen, leur plume donc détonne. Frédéric Quinonero, biographe de Dutronc.
Elle détonne parce que c'est un littéraire, Lanzmann. C'est pas un parolier, c'est pas un auteur de chansons. Ça l'amusait de le faire. En fait, c'était un challenge pour lui et c'était un challenge aussi pour Wolfson d'aller chercher quelqu'un comme Lanzmann. Et ça a apporté effectivement quelque chose de complètement novateur parce que, effectivement, ça reflétait l'air du temps. Ça avait en même temps la distance et l'humour nécessaire pour ne pas être pris forcément au premier degré. Et en même temps, la musique de Dutronc était complètement dans le coup, quoi. Donc, ça a fait une espèce d'alchimie qui a fonctionné. Et puis, les textes de Lanzmann collaient, mais parfaitement, à la personnalité de Jacques. On pouvait penser, effectivement, que le « et moi » ou celui qui disait « j'aime les filles », etc., quand il parlait à la première personne, il parlait de lui, ce qui n'était pas forcément le cas.
C'est Dutronc qui a eu l'idée de ce type-type-là. Mais ce qu'il a inventé et incarné surtout, c'est l'insolence et la désinvolture dans la chanson française autant qu'à la télévision. La plupart des foyers ont un petit écran dans leur salon et la couleur arrive en 67. Cette décennie des années 60 est aussi celle où on invente les émissions de variété. Et là au milieu, Dutronc vient dynamiter et déstabiliser le bon déroulé des programmes comme celui des interviews. Il n'hésite pas à se mettre en scène, pas encore avec un cigare à la bouche, mais avec un porte-cigarette qu'il tête sous les caméras et dans sa baignoire. Extrait de l'émission Zoom, diffusée le 29 novembre 1966.
Ben, toujours ici, c'est grâce à ma voix. En fait, j'ai chanté parce que Mes parents m'ont dit, voilà, t'as un physique formidable pour la chanson, t'as un nom de théâtre, Dutronc. Et alors, ils m'ont poussé sur la scène et voilà, j'ai chanté. Qu'est-ce que vous avez comme question à me poser?
Vous intéressez à la politique.
Et moi? Ah non, pas du tout. Enfin, je crois, bientôt je vais m'y intéresser, je crois que je vais me présenter aux élections.
Quel parti?
Le mien. Par contre, vous me parleriez de... je ne sais pas, moi.
De quoi voulez-vous que je vous parle?
Ce que vous voulez.
Est-ce que la réussite vous a changé?
Ah oui, énormément, hein.
Adik Alafat, bassiste et ami de Jacques Dutronc.
Certains journalistes et certaines personnes dans le public disaient « il se fout de la gueule du monde ». Mais ça faisait partie de son personnage. C'est-à-dire que Jacques a toujours regardé sur scène ou à la télévision avec un sourire, léger sourire. Je vais faire une comparaison. Le sourire de Mona Lisa, le sourire de la Joconde. Léonard de Vinci, il a dessiné la Joconde avec ce sourire, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un sourire légèrement cynique, en disant, il y a des millions de personnes qui vont voir ce portrait et je vous emmerde. Et ça, c'est un peu Jacques.
Lorsque Françoise m'a présenté à Dutronc, ça faisait 3 ans qu'on était séparés, les gens disent toujours qu'il me l'a piqué. Non, Françoise a eu une autre vie quand même, hein. Elle est capable de vivre des trucs. Et je tombe fou de ce mec-là.
Qui parle? Jean-Marie Perrier, photographe pour le magazine Salut les copains à l'époque. Toutes les stars des années 60 sont passées devant son objectif, Mick Jagger, Johnny, Hardy et Dutronc.
Je tombe fou de ce mec-là. Parce que d'abord, il était le plus différent. Il était en cravate alors que tout s'était américanisé. Et puis, il était d'une insolence que personne n'atteindra jamais à l'époque. Et il était toujours entouré de types parce qu'il voulait se protéger. Alors, il faisait tout pour se cacher, parler en verlan, enfin bon. Et un jour, comme je avais tous les pouvoirs à l'époque avec celui des copains, j'emmenais les artistes un peu partout dans le monde pour faire des photos, soi-disant. Et je dis à Jacques, bon, bah tiens, je t'emmène en Inde. Parce que là, je savais qu'il serait seul. Là, il n'y aurait pas la troupe. Donc, on prend l'avion pour Bombay d'abord, parce qu'il y avait une escale. Ensuite, Bombay-Ceylan. L'avion de Bombay-Ceylan était un avion de la TWA dans lequel il n'y avait que des Américains. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas un mot de français et Jacques ne parlait pas un mot d'anglais. Je m'endors 2 heures et quand je me réveille, comme d'habitude avec lui, l'avion était devenu fou. Des fous, les gens qui dansent, les bonnes femmes qui sont sur les sièges en train de danser, le steward a mis son slip sur la tête, enfin c'était délirant. Comment il a fait, ça je sais pas. Mais tout, partout, c'était comme ça. On dînait dans un restaurant, la patronne finissait à poil sur la table avec une casserole sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Et on est allé enfin à Ceylan, c'est-à-dire le Sri Lanka, là. Et on se retrouve tous les deux, tout seuls, dans un hôtel, au bord de la mer. À un moment donné, je lui dis, écoute, il y a une chose que je voudrais que tu m'expliques. Pourquoi t'es avec Françoise? Et il me répond, parce que je l'aime. Jamais je l'ai entendu dire une phrase aussi simple. Mais je lui dis, si tu l'aimes, pourquoi tu tapes tout ce qui passe? Et il me répond cette phrase hallucinante. Il me dit, c'est parce que moi, je commence par la fin. Les mecs, ils sont fidèles, ils les trompent dans 5 ans. Moi, je la trompe maintenant et je serai fidèle dans 5 ans.
Le 6 novembre 1967, Guy Lux reçoit Jacques Dutronc dans l'émission Le Palmarès de la chanson. L'occasion? Lui remettre un disque d'or en direct à la télévision. Françoise Hardy est là aussi. Guy Lux demande à Françoise d'embrasser Jacques au moment où il reçoit son trophée. Elle refuse. En revanche, ils interprètent un duo en plateau. Le plus difficile, c'est le titre.
Le plus difficile, ce n'est pas de le faire parler. Le plus difficile, c'est surtout de le faire chanter sans lui donner quelque chose. Le plus difficile, ce n'est pas le faire tordre de rire. Le plus difficile, c'est bien qu'il me fasse sourire sans qu'il y perde quelque chose.
Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours des vieux fossiles. Ce sont des hommes de Cro-Magnon. Mais moi je suis un gros mignon.
Frédéric Quinonero, biographe de Jacques Dutronc.
C'est resté un couple mythique, c'est un couple de rêve d'abord parce que comme les couples de cette époque-là, que ce soit Johnny Sylvie ou Françoise Hardy et Jacques Dutronc, d'abord ils étaient très beaux tous les deux. Et puis ils étaient très modernes pour l'époque, ils ne se sont pas mariés aussi, ils se sont mariés en 81 pour des histoires administratives, mais pendant longtemps ils sont restés ensemble sans se marier. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est assez amusant, enfin c'est amusant à dire, peut-être un petit peu moins à vivre, a vécu chez ses parents jusqu'à la naissance de Thomas. Thomas est né en 1973, et Françoise Hardy à ce moment-là a demandé à Jacques, mais qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on va vivre tous les trois sur le même toit? Ce serait quand même souhaitable. Finalement, il a fini par céder, ils ont commencé à vivre ensemble à ce moment-là, mais quand même, chacun avait son appartement ou sa chambre ou son coin. Donc, il y a eu toujours cette liberté qui leur tenait à cœur, à l'un comme à l'autre, enfin surtout à l'un. Et donc, il y avait voilà cette modernité de se dire, bon, on peut durer, un couple peut durer à condition de garder une certaine liberté. Ouais.
J'aime les vignes de La Rochelle. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi.
1968, Dutronc continue de suggérer des thèmes de chansons à Jacques Lanzmann. Ça donne notamment « Fais pas ci, fais pas ça », l'un des textes qui capte le bruit de fond de l'époque. La révolte de mai à venir.
Donc, samedi pour vous, Pierre Vialet, 21-1, deuxième, voilà.
Ouais. Préparation du tournage de l'émission Samedi pour vous, où Dutronc interprète Il est 5h, Paris s'éveille, à la guitare sèche. Portrait d'un pays désenchanté.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est le coup, je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris s'éveille, il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Comment Jacques Dutronc a-t-il traversé mai 68? Réponse de Frédéric Quinonero.
Avec la même désinvolture qu'il a traversé tout le reste, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas du tout concerné. 68, c'était une révolte étudiante. Il n'a jamais été vraiment étudiant, Jacques. Et il était à un moment de sa carrière où il gagnait beaucoup d'argent. Donc, ils se sont isolés, Françoise Hardy et lui, en Corse, à ce moment-là. Et ils ont attendu que les événements passent. Ce qui est amusant, par contre, c'est qu'en février est sorti Il est 5 heures, Paris s'éveille. On a considéré cette chanson-là comme un petit peu prophétique, finalement. Les manifestants de mai 68 se la sont appropriés à son corps défendant, forcément, puisque je pense qu'à l'époque, Françoise, comme lui, devait être gaulliste, justement.
Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés.
En mai 1968, Il est 5 heures, Paris s'éveille a donc fait l'objet d'un détournement par les révolutionnaires. Cette version a été écrite par Jacques Leglou et interprétée par Jacqueline Danon. La chanson figure sur un album publié après coup et intitulé « Pour en finir avec le travail ».
Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Cette même année, politiquement agité, Dutronc et Lanzmann créent la chanson « L'opportuniste ».
Alors l'opportuniste, justement, c'est peut-être lié à mai 68, parce que mai 68, en fait, c'est une mini-révolution qui va capoter, hein, finalement. Donc, à la suite de ça, au mois de juin, donc, qui a suivi, la droite l'emporte majoritairement aux élections. Il y a un grand défilé gaulliste sur les Champs-Élysées. Et je pense que ça donne l'idée à Lanzmann, du coup, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, donc cette espèce de valse lui donne peut-être l'idée de l'opportuniste. On tourne sa veste quand l'occasion s'y prête.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi. Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Ne jamais je ne conteste, ni revendique.
Inter. Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Après 68, c'est 69 en toute logique. Le chiffre, comme l'évolution des mœurs, en font une année érotique. 69, année érotique, est le titre d'une chanson de Gainsbourg et Dutronc s'y met aussi, si je puis dire. Avec Lanzmann, il coécrit L'hôtesse de l'air.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.
Changement de salle, changement d'ambiance. Parce qu'exactement la même année, 1970, Jacques Dutronc participe à la création de livres-disques pour enfants. Dutronc ne suit que ses envies. Il est devenu ami avec le dessinateur Fred, l'auteur de Philémon. Ensemble, ils publient deux histoires, Le Sceptre et La voiture au clair de lune.
Hey, attention !
Ce sont des bandes dessinées mises en voix et en musique. pas sûr que le public de Dutronc l'attendait dans ce registre. Dans ses enregistrements, Jacques Dutronc joue tous les personnages et interprète les chansons.
Oh, mais si je comprends bien, vous m'avez sauvé la vie, jeune homme.
Ouais.
Vous méritez une récompense.
Eh ben, j'ai envie d'une voiture, et toute décorée, neuve.
Une voiture? Une voiture comme celle-ci?
Non, mais vous moquez de moi ou quoi?
Petite voiture deviendra grande, jeune homme. Prenez-la. Prenez cette maquette, comme vous dites. Plantez-la et arrosez-la avec du jus de myrtille, un soir de pleine lune. Et vous verrez, jeune homme, vous verrez.
Après le tourbillon des années 60, Jacques Dutronc rencontre moins de succès avec ses disques. C'est un creux de la vague, comme on dit. Frédéric Quinonero.
Et ça l'amusait beaucoup, à l'époque, d'aller se produire dans des petits cabarets comme la Tête de l'Art en 69 et 71, devant un public de bourgeois, d'hommes d'affaires, enfin de gens friqués comme ça. Et il avait quand même l'art de se tirer une balle dans le pied, finalement, parce que c'était un délire total. Et il y avait des toilettes sur scène, il y avait un réchaud où il faisait cuire des pâtes, parce que c'était un cabaret où les gens mangeaient. Donc, il se disait, après tout, il n'y a pas de raison que vous vous mangiez, pas moi. Donc, il faisait des spaghettis sur scène, il mangeait tout en chantant. Enfin, il avait poussé le délire tellement loin, finalement, qu'à la fin, le public était clairsemé, il y avait beaucoup moins de monde. Et puis, je crois aussi qu'il y a des chansons beaucoup plus nostalgique. On avait l'habitude de cette ironie, de cette distance chez Jacques, et tout à coup, il arrive avec Le Petit Jardin ou La France défigurée. C'est des chansons tristes et nostalgiques et pas forcément dans le style auquel il nous avait habitués.
Ça n'est pas la musique d'une chanson de Dutronc, mais le générique d'une émission diffusée sur l'ORTF le 7 avril 1970. Le programme s'intitule L'Hexagone et on y rencontre de nouveaux projets urbains.
Ce champignon de béton en plein champ, c'est une préfecture. Et à l'intérieur, il y aura deux cinémas et un drugstore. Mais avant tout, cette préfecture représente l'espoir d'un urbanisme meilleur. Nous sommes à Cergy-Pontoise, une des villes nouvelles prévues par le schéma directeur. Les habitants auront des emplois à proximité, mais aussi des distractions. Et la base de loisirs offrira toutes les possibilités de sport nautique et terrestre. À Cergy-Pontoise, la campagne sera dans la ville.
Et pendant ce temps, Lanzmann et Dutronc se mettent justement au boulot pour écrire la chanson Le Petit Jardin. Qui fait quoi pour bâtir un texte? Ça a été un gros sujet de brouille entre Dutronc et la famille Lanzmann. Mais on en sait plus grâce à l'émission Samedi pour vous qui filme leur séance de travail. Nous sommes le 5 février 1972 et je crois que c'est l'une des rares fois où Dutronc ne joue pas l'ironie à la télé. On aurait presque l'impression qu'il en a oublié la caméra.
Avant tout chose, essaye d'écrire lisiblement.
Oui, je sais, mais j'ai une écriture terrible.
Terriblement. Ouais. Sur le manuscrit que tu m'as fait, envoyé, d'ailleurs en lettre recommandée, c'était un petit jardin. Et maintenant, tu me certifies que c'est joli.
C'était un joli petit jardin.
Je te parie tant.
Essaye les deux, d'accord.
Bon, la musique, c'est ça. C'était un petit jardin. Bon, alors, tu mets joli. Oui, c'était un peu. C'était un joli peu. Non?
Mais oui, ça va pas.
Non, moi je voyais ça comme ça. Enfin, je sais pas, moi je suis l'arrangeur. Non, tu m'entends pas, j'ai mon cigare. Tu m'as offert des. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin.
Tu veux pas répéter après qu'il sentait bon le métropolitain, tu veux pas répéter c'était un petit jardin. Tu as trafiqué le texte.
Alors, non, mais j'ai supprimé une phrase seulement. Mmh. Car tu m'as fait trois phrases ici, et après tu m'en as fait cinq.
Oui.
Alors, il vaut mieux trois et répéter au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme. Attends, là je me suis trompé d'accord.
Oui. Alors qu'est-ce que tu veux faire?
Rien.
J'adore.
J'abandonne.
Bon, alors. Attends, tu n'as pas l'impression que le refrain est trop long quand même?
Descends. On est mal barré là. Je crois qu'on l'a tout dit.
Oui.
De grâce, monsieur le promoteur.
fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Les deux Jacques, Lanzmann et Dutronc, travaillent ensemble une dernière fois en 1980. En mai 2003, ils accordent une interview à l'Obs et répondent séparément. À la question « Vous êtes-vous fâché un jour ?», Dutronc répond « Sûrement, mais pas ensemble. » De son côté, Lanzmann déclare « Nous ne nous sommes jamais fâchés. C'est pire. Il n'y avait plus rien. J'en ai beaucoup souffert. Pour moi, ça a été comme un deuil. Mais je ne savais pas lequel de nous deux était mort. » Désormais, le parolier de Jacques Dutronc s'appelle Serge Gainsbourg. Au départ, ils ne s'aimaient pas. Françoise Hardy les a présentés et ils se sont entendus comme larrons en foire.
La collaboration entre Gainsbourg et Dutronc est formidable parce que bon, là Jacques voyait quelqu'un qui était capable quand même d'une insolence qui était vraiment largement équivalente à la sienne. Hein.
Jean-Marie Perrier, photographe et ami de Jacques Dutronc.
Et puis c'est un désespéré terrible quand même, Gainsbourg. Donc je crois qu'ils se sont vraiment retrouvés.
Pourquoi Dutronc aussi, c'est un désespéré?
Jacques, bah évidemment, je vous dis, il a lu Céline en démarrant quand il avait 17 ans, 18 ans et... C'est une drôle d'idée quand même, parce que Céline est certainement le plus grand écrivain qui soit du siècle dernier, mais donner à un môme de 17 ans un livre mort à crédit et voyage au bout de la nuit, c'est gonflé quand même. Il a été très marqué par ça, très très marqué par ça, parce que ça l'a aidé à avoir un tel recul sur les sentiments humains et tout. Au fond, il croit à très peu de choses. Hein. Il croit à très peu de choses. Donc oui, il est totalement désespéré. Énormément même, ça c'est certain.
Le 3 septembre 1975, Jacques Dutronc est l'invité principal de l'émission Les Copains d'abord. Et parmi les présents sur le plateau, il y a Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg, d'un seul coup vous venez de parler presque sérieusement.
Oui, parce que
ça y est, il commence à rire, c'est pas possible.
Non, je le répète. Hein. Oui, mais il faut qu'il rie, il faut qu'il se démolisse lui-même. Parce que moi, je crois qu'il est comme moi, et c'est un timide et un agressif.
Bon.
Donc, je rejoins là. Mais l'important est son comportement entre les chansons.
Oui, absolument.
Mais oui,
absolument.
C'est pas un cabot comme ça qui va dire ah oui, je vais faire un tabac et je vais monter. Non, il casse son cou. Et c'est ça qui est, je trouve, pas intéressant, qui est fascinant. Il existe, nous existons par nos agressions. Et ces agressions cachent les sensibilités à fleur de peau.
En 1980, Gainsbourg écrit 6 chansons pour Dutronc, dont celle-ci. L'hymne à l'amour, Moelle-Neuve.
Moelle-Neuve.
Aujourd'hui, on dirait que c'est un texte pour le vivre ensemble, certes. Mais Gainsbourg plus Dutronc, c'est le refus du sentimentalisme au carré. Donc aimer sans discrimination aucune, ok, mais dit comme ça plutôt.
Niakoué, négro, blanc, blanc, bouquin. Métèque, moko, ordure, putain. Rital, macro, macaque, chien. Boudou, homo, tata, tapin.
L'hymne à l'amour, Moelle-Neuve, figure sur l'album Guerre et Paix, Paix comme P-E-T-S. Au départ, Gainsbourg et Dutronc avaient signé pour 3 albums ensemble. Finalement, il n'y en aura que 2, plus une chanson qui s'intitule « Merde in France ». Frédéric Quinonero, auteur d'une biographie de Jacques Dutronc.
Le single « Merde in France » marque un petit peu la fin un petit peu chaotique, du tandem Gainsbourg-Dutronc, c'est-à-dire que il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de parole, et ils comptaient sur Serge Gainsbourg donc pour les écrire. Ils ont loué un studio pour quelques heures, il doit enregistrer cette chanson-là, pensant que Serge va lui apporter un texte, et pas du tout. Serge avait passé la nuit à picoler, incapable d'écrire quoi que ce soit. Et du coup, Jacques a chanté un petit peu n'importe quoi, et ça a donné Cacapoum, Merde in France, enfin, un truc encore à la Dutronc, quoi, voilà. À la fashion con Dieu, comme il disait. C'est un terme qu'il a employé pour parler de l'anglais yaourt.
Cigare.
Hey, you sleep, I tell, baby, bye bye. Baby, sleep, dortoir, limaille, merde in France. Hey, masque à gaz, ciao, bye bye.
La boucle est bouclée, ou quasi, finalement. Dutronc renoue avec le yaourt et la parodie des yéyés qu'il faisait à ses débuts.
Alors
la fauchonne comme Dieu, cacapoum, cacapoum, 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 ils se bouquent, ils se narrent, ils se tripent, bouquenard, cacapoum.
Dans les années 80, les activités de Jacques Dutronc ralentissent sur disque comme sur grand écran. La frénésie musicale des 60s et la multiplication des tournages de la décennie 70, Dutronc n'en a plus envie. Il revient avec le cinéma en 1991, sous la direction de Maurice Pialat. Ce sera Van Gogh. À l'écran, il est très amaigri et on lui prête tout un tas de maladies, sida, cancer, etc. Le film correspond en fait à un moment où Dutronc a arrêté de boire et sa souffrance du sevrage participe à son interprétation du personnage. Il ne joue pas Van Gogh, il le ressuscite. Un an plus tard, en 1992, il fait son grand retour sur scène au Casino de Paris. Il publie un nouveau disque avec plusieurs textes signés de l'autrice Linda Lay, récemment décédée. Et en 2003, il retrouve Jacques Lanzmann après 23 ans de séparation pour l'écriture de l'album Madame l'Existence. Jean-Marie Perrier a organisé les retrouvailles dans la maison corse de Dutronc et il a filmé le moment pour un documentaire qu'il a intitulé « Salut sexe ». Lanzmann et Dutronc, assis côte à côte dans le jardin. Dutronc a ses lunettes noires et son cigare en bouche. Lanzmann tient ses textes à la main en disant « Il faudrait que tu les lises, peut-être. » On sent bien que ça ne va pas trop entre eux. Et pourtant, Lanzmann dit
« Tu vois, je suis très à l'aise, Jacques. Et j'aimerais que tu te sentes à l'aise aussi bien que moi. » On peut couper, hein. On peut trafiquer, hein. On a du talent. On peut pas nous enlever ça, mon vieux.
Je voudrais m'acheter une démocratie. Je voudrais m'acheter le meilleur d'une vie. Je voudrais m'acheter de la liberté et puis un peu de fraternité. On n'a pas ce genre d'article. Vous vous trompez de boutique. Ici c'est pas la République. Avez-vous quelque chose contre la misère? Contre la misère, on a des cache-misères. Contre la misère, on a de la poudre aux yeux. Et puis encore, un peu de ciel bleu. Merci, Madame l'Existence. Merci, Madame.
Pour écrire ce Pop and Dutronc, on a largement consulté Jacques Dutronc l'Insolent de Frédéric Quinonero, paru aux éditions de l'Archipel. Il y a aussi Dutronc la bio, signé Michel Lédier. Crac boum U, Jacques Dutronc, c'est le titre du numéro 14 du magazine Schnock, disponible dans toutes les bonnes librairies. Et enfin, les concerts de Rodeo Drive, groupe de Hadi Calafate, seront fixés dans les mois à venir. Life is Dead, la vie est morte, c'est assez dutronesque comme titre. Life is Dead, c'est le titre de leur nouvel album. Le groupe s'appelle Cannibal et ils sont en playlist sur France Inter. You are upset, sir. You want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. C'est le titre d'un album à venir et c'est aussi le titre d'une tournée. Les deux seront donc à Montauban le 25 juin, à Lyon le 29 et il y a des dates jusque fin 2022. Koyan Guyen a réalisé Pop & Co ce matin avec Alexandre Chenet, Ilinka Negulesco trouve Doc et son et Jean-Baptiste Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, en plein festival de Cannes, je vous parlerai d'Ennio Morricone, suivra une plongée dans l'histoire de la chanson française, de Michel Delpech à Stéphane Echer en passant par Serge Gainsbourg grâce à Dominique Blanc-Francard. À samedi.